Apéro spécial 10 choses à observer en NBA.
Boum. On se prépare pour j'allais dire la deuxième partie de saison, mais plutôt le dernier tiers, plutôt gros tiers en tout cas, en post-All-Star Game, puisqu'on a l'All-Star Game qui arrive là ce week-end. Grand moment de la saison basket.
Hyper attendu.
Voilà. C'est quoi le même? C'est Nouron Picham. C'est ça le même?
C'est Nouron Picham, c'est je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Tout ce que vous pouvez utiliser,
tout
ce qui est imaginable.
La Team World va tabasser tout ça, voilà, c'est tout ce qu'on espère.
Écoute, je te remercie pour ce teasing, Alex, puisque je serai sur place à Los Angeles. Merci de dynamiser cet événement.
Non, mais ça, c'est cool, par contre.
Par contre, je vais me régaler.
D'aller sur place, c'est cool.
Deux légendes absolues de la communauté qui seront avec moi pour vivre ça.
Debout à 3h du mat pour regarder ça dans la nuit dimanche à lundi.
Ah, 3h du mat, je te confirme.
Et autre chose.
Après, sur place à l'Intuit Dome, avec deux légendes absolues pour aller voir des joueurs trottiner, j'ai très hâte.
Ah, puis là, l'avantage, c'est quand t'as envie de pisser, t'as le choix.
On est obligé de la Valmer. Voilà. Dans les urinoirs, le urinoir FC. On espère que vous allez bien. L'actualité continue, et même si en effet il y aura un break dans quelques jours, on va avoir pas beaucoup de matchs de NBA sur les 7, 8 prochains jours à partir de vendredi matin.
Mercredi,
ça se calme un peu.
Il y a une grosse nuit de match.
Jeudi, ça rejoue un peu.
Voilà, et après, on a une pause.
Et après, on a un break de 4, 5, 6
ouais,
jours.
Ouais, 6 jours, ouais.
C'est ça, donc notamment vous pouvez déjà vérifier en milieu de semaine prochaine les joueurs qui vont revenir avec un très gros bronzage, puisque comme on dit c'est aussi l'occasion pour des îles en Amérique centrale de se faire un très très gros business. C'est là que souvent on retrouve des joueurs qui vont aller à Turks and Caicos, les Barbades.
Bah écoute, tant mieux.
Voilà.
Mais nous, profitent de leur temps.
Absolument. Et nous aussi, on va profiter de notre temps et on va avoir une trentaine de matchs sur la fin de saison NBA. Et c'est une autre partie de la saison très intéressante parce que oui, certains parfois voient le mois de mars et se disent « Bon, allez, on attend juste les playoffs ». Ben non. On fait chaque année cette espèce d'apéro, Alex, où il y a des choses qu'on a très hâte d'observer parce qu'il y a des choses à observer de très très près sur ce dernier virage.
Ouais, il y a plein de choses. Il y a des joueurs, des dynamiques d'équipe, des équipes qui ont fait des trades quand même assez significatifs au moment de la deadline. Est-ce qu'elles vont se mettre en route, pas se mettre en route? Est-ce que ça mord pas? C'est un peu là que ça se joue.
Oui.
En tout cas, ou au moins que des choses se mettent en route. Donc ouais,
Si vous êtes les Mavs l'année dernière, post-transfert, comment ça se passe avec Anthony Davis? Et surtout, est-ce que vous êtes capable de dire que vous allez finir premier de la loterie? Eh non!
Voilà.
Et ça s'observe. Donc plein de choses, dites-nous vous, évidemment, s'il y a des choses que vous avez très hâte de suivre, hein, peut-être que ça concerne votre franchise, ou juste parce que vous aimez suivre toute la NBA, il y a des choses que vous avez très hâte. On va se faire un petit back and forth dans quelques secondes. Avant ça, petit message, rempli d'émotion, malheureusement, vous le voyez, ce n'est pas une blague sur cette télévision, nous avons affiché une magnifique plante, car notre chère plante, que Léon ça depuis 20 ans.
Ouais, ça fait longtemps.
On a toujours connu cette plante ici.
On a toujours connu cette plante. Alex et Léon, on a toujours connu cette plante. Elle était même à Bordeaux. Et bien, malheureusement, nous quitte.
Est en train.
On ne sait pas encore.
Il
y a un arrosage d'une tierce personne.
Va y avoir des
qui n'est pas dans cette pièce.
Voilà. Va y avoir une phase de potentielle réanimation ou sauvetage.
Exactement.
Mais bon, bref, vous voyez, voilà.
Donc, on a trouvé que c'était de circonstance quand même de la mettre en présence avec nous. Ceci étant dit,
on connaît le nom de la plante.
Il n'y a pas de nom.
Comment ça, il n'y a pas de nom?
Il n'y a pas de nom. Il y a des noms aux peluches, mais il n'y a pas de nom aux plantes.
Non, quel type de plante c'est, excuse-moi?
Bah, justement, si
genre,
ça te va.
C'est un eucalyptus? Non, c'est pas un eucalyptus.
On est sur une Dragaeris parfumée.
Ouais,
si je ne dis pas de bêtises, un Dragaeris.
Pas trop, je ne me rappelle plus, ça fait longtemps. Mais
d'accord.
Et donc, je fais appel à nos amis, peut-être, de la communauté, s'il y a des gens qui travaillent dans l'univers des plantes hein, et
si
des arbres.
Si vous avez un
fleurs,
plan pour avoir une plante. On est intéressé.
Tout à fait.
Non, peut-être. On est peut-être intéressé.
Ici chez Trash Talk,
faudra qu'on fasse le deuil.
On va tout faire.
Faudra qu'on fasse le deuil d'abord.
Hors contexte, cette phrase est très bizarre.
Oui, elle est très bizarre. Je suis d'accord. Elle est très bizarre, mais il y a un contexte. C'est
oui,
comme tout.
Absolument. Voilà. Donnez-nous évidemment de la force ou bien des recommandations. Vous faites partie évidemment de cette grande commu Trash Talk et donc vous allez aussi pouvoir nous aider à savoir qui pourra peut-être par la suite continuer à habiller cette extraordinaire table basse Trash Talk qui en vit des moments quand même, je veux dire.
Ouais, c'est le temps qui passe, un jour on perdra la table aussi.
Non, malheureux.
Oh là là.
Surtout que la commu nous avait envoyé, j'avais reçu une fois une carte cadeau Ikea pour, pour s'occuper de ça.
C'est solide.
C'est du solide. Alex, est-ce que t'es prêt?
Ouais, je suis prêt.
Je te propose qu'on fasse donc ce petit ping-pong. Les 10 choses à observer, ça peut être conférence Est, conférence Ouest, ça peut être joueur, parquet, équipe ou autre chose. Quel est le premier élément dont tu as envie de discuter et que tu as très hâte d'observer?
Bah, à mon avis, une des plus grosses évidences en termes d'observation sur cette fin de saison, ce sont ce que j'appellerais les nouveaux Cavs. Les Cavs, parmi les équipes costauds de la NBA, sont est-ce qu'il y a une équipe qui a fait des moves, plus de moves significatifs vraiment dans les équipes qui jouent vraiment quelque chose en deuxième partie de saison?
Le Jazz.
Ouais, c'est bien ce que je dis. Donc les Cavs ont bougé très sérieusement à la deadline. Vous l'avez suivi, on en a fait des apéros débriefs. Il y a d'abord eu Dennis Schroeder et Keon Ellis qui sont arrivés en échange de DeAndre Hunter, le copain de Poto de Bastien. Et après, il y a eu ce swap. Darius Garland a été prié de faire ses valises et d'aller voir si l'herbe était plus verte à Los Angeles, sans mauvais jeu de mots.
Parce que les arbres poussent.
Voilà, voilà. Et James Harden, lui, a été prié de voir si les barbiers de l'Ohio étaient efficaces.
De prendre sa plus grande inspiration.
Voilà. Eh ben, deux matchs de James Harden avec les Cavs au moment où nous on fait cette vidéo, il y en a eu deux. Dont notamment la victoire là contre les Nuggets, où moi, à titre perso, j'ai trouvé qu'il y avait plein de choses très intéressantes. Alors après, échantillon tout petit, on va pas faire des conclusions hâtives en février et tout, mais il y a plein de choses intéressantes qui sont à noter. Déjà, en l'absence de Evan Mobley, Kenny Atkinson a fait le choix de jouer bien small. Derrière, il n'y avait ni Evan Mobley ni Dean Wade. Donc, ça a joué bien small. Par exemple, contre les Nuggets, c'était genre Mitchell, Merrill, Harden et Jalen Tyson. En gros, à peine il y a un ailier. Allez, Jalen Tyson, c'est un 3, on va dire. Les autres, c'est des arrières combo guard. Mais ça a plutôt bien fonctionné. En tout cas, le jeu offensif a été assez intéressant. Faut dire aussi que les Nuggets ont spécialement mal défendu dans ce match. Hein. Voilà, ça arrive. Et donc, dans le cas des Cavs, il y avait moi, du coup, très intéressé. Le replay, là, ce matin, tout ça, j'étais là. Bon, déjà, j'adore les passages de Keon Ellis. Je trouve que Keon Ellis, comme prévu...
À la surprise générale
si Doug Christie voulait pas l'utiliser, tout ça, bon... ou ne pouvait pas l'utiliser pour des raisons de les Kings qui n'avaient pas envie de le prolonger, tout ça. Bon, très bien, très bien, très bien. En attendant, le type, bah, il arrive dans une équipe qui a des grosses ambitions et dans une ligne extérieure où on a besoin de son profil. Kenny Atkinson lui donne des vraies minutes. Eh ben, ça se voit. Ça oui. se voit. Il amène de la longueur. Il est plus long qu'un Donovan Mitchell. Il est plus long que Sam Merrill. Il est plus défensif aussi naturellement que ces types-là. Il amène de l'impact sur les lignes de passe. Il peut faire du premier rideau sur le meilleur extérieur adverse. On l'a vu contre les Nuggets. Là, il a été capable de bien faire chier notre amant Jamal Murray et ou Christian Brown quand ils avaient le ballon, balle en main, donc pour la création balle en main, pardon. Donc ça, j'aime. Taf en premier rideau, plus vu qu'il y a un bon mouvement de balle et que Donovan Mitchell fait des différences de fou furieux, il va avoir des shoots ouverts, à charge à lui de les mettre. Ensuite, Schroeder, je sais pas trop quoi en dire, mais pour l'instant, on voit bien Schroeder en sortie de banc, il va amener du slashing et tout. Bon là, les tirs rentrent pas trop, donc son impact offensif est un peu plus limité. Par contre, il peut blow-by son défenseur, il va au cercle et tout, ça reste des Schroeder.
Puis c'est un playoff qui va être attendu aussi.
Voilà, donc la rotation du backcourt des Cavs, du coup, est très profonde, d'autant plus que tu as le barbu qui débarque et... On avait des doutes, on en a discuté, on savait pas trop et tout. On a comparé Harden et Garland et tout, mais surtout, on se posait vraiment la question de l'intégration tactique à l'intérieur de ces Cavs.
Moi, j'étais bien optimiste.
C'est vrai que t'étais plus optimiste que moi. Le duo Mitchell, Harden et tout. Bon, j'ai trouvé que Kenny Atkinson s'en était pas mal sorti du tout, que même sur les phases, quand il y a chacun son tour, genre Donovan Mitchell se met un peu sur le banc, Harden en porteur de balle principal, pas de problème. Harden est sur le banc, Mitchell en porteur de balle principal, pas de problème, ça c'est pas une surprise. Mm-hmm. Surtout qu'en plus, comme je viens de l'expliquer, ils ont vraiment les joueurs à mettre autour, même en l'absence d'Evan Mobley. Mais en plus, ensemble, j'ai trouvé que Mitchell, bien intelligent à utiliser tous les espaces que crée le fait de jouer avec Harden balle en main. Harden balle en main, il y a des espaces pour les autres. Et là, c'est Donovan Mitchell. Aussi, j'ai bien aimé côté weak side, comme on dit, c'est-à-dire Harden côté fort avec la balle, un écran, ça attire du monde, t'as au moins deux, voire trois joueurs et tout, renverse de l'autre côté, et du coup, Donovan Mitchell, bah, il est en 1 contre 1 ou en 2 contre 2. Oh, c'est dangereux. Hein. C'est dangereux. Il y a souvent panier, en fait, dans ces cas-là. Jarrett Allen, hein. En plus, là, il n'y avait pas Evan Mobley, mais Jarrett Allen, bah, ouais, il fait des écrans Harden, puis après, il roule vers le cercle, bah, c'est marrant, il fait des gros double-double, il met 20 points. Voilà, c'est marrant. Je dis pas qu'ils pouvaient pas le faire avant. Je dis juste que ça, ça va, à mon avis, pouvoir être répété. Donc ça, ça fait vraiment partie des choses que je vais beaucoup regarder, parce que là, on a que deux matchs à se mettre sous la dent. Je vais regarder tous les matchs. Je vais essayer, en tout cas, de vraiment bien regarder les Cavs tout le mois de mars, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui peut se mettre en place. D'autant plus que, et ça, on en avait un petit peu parlé, Harden amène autre chose. Bon, la défense, voilà. Mais en fait, entre Garland, Harden en défense, je suis pas sûr. De toute façon, les Cavs, le problème reste un peu entier. Non. C'est surtout Keon Ellis qui est destiné à essayer de boucher ce genre de truc. Par contre, Harden, bah, il prend du rebond. Harden, il a un gros corps par rapport à Garland. On l'a vu là. Harden vient faire l'aide. Harden se retrouve avec Jokic qui recule sur lui. Bah, il tient un peu mieux qu'un petit garde comme Mitchell ou comme Garland. Donc, ça laisse le temps à la bonne défense des Cavs et à leurs joueurs un peu intelligents défensivement, comme Keon Ellis ou comme, bah, évidemment, Jarrett Allen, de venir fermer. Et donc, on l'a vu faire des contres. On l'a vu venir aider au rebond. Donc, ce Harden là, on le connaît. Hein. On sait que ça peut être complètement l'inverse au match prochain. On connaît la bête. Mais ce Harden-là,
en avril,
qu'on a vu, s'il peut se maintenir là-dedans et que grâce à la profondeur et à la qualité de l'effectif des Cavs, ils arrivent à bien entretenir ça et à créer un semblant de dynamique pour arriver en play-off avec une sorte d'arme en plus, ça reste l'équipe de Donovan Mitchell. Est-ce qu'on va dire Harden, c'est son lieutenant? On peut, si vous voulez, en tout cas, peut-être qu'il sera utilisé plus comme une option, une deuxième option, en tout cas au scoring. Ah, il apporte des lancers, ça reste James Harden. Il y a un vrai truc qui est en train de se... qui peut se bâtir aux Cavs. Très hâte de voir le retour d'Evan Mobley aussi, parce que c'est un mec à qui ils avaient donné l'habitude d'avoir un peu la balle en main. Donc là, ça va peut-être faire beaucoup de porteurs. On va voir comment tu utilises Evan Mobley. Est-ce qu'il devient spot-up shooter en attaque, ou est-ce qu'il pose des écrans et il roule, ou est-ce que justement c'est l'occasion pour Atkinson de jouer ou avec Allen ou avec Mobley. J'exagère un peu, c'est pas tout noir tout blanc, mais voilà.
Est-ce qu'il aura le meilleur partenaire de pick and roll de ces 15 dernières années à ses côtés, Evan Mobley? Peut-être.
Pour une équipe qui a trois nouveaux joueurs importants dans sa rotation à la deadline, je trouve que les débuts sont très prometteurs. Voilà.
Bah, comme je t'ai dit, moi j'étais assez optimiste sur l'arrivée de James Harden aux Cavs et je pense que ça va se confirmer gentiment. Alors après, toute l'interrogation elle est plus.
Pour les playoffs.
En mois d'avril.
Là, ils sont quoi les Cavs là... Ils sont. Quatrième, le nez, hein, juste devant comme ça, les Raptors et les Sixers. Pas si loin que ça des Knicks et des Celtics.
Ils peuvent continuer à monter. Hein.
Qu'est-ce que t'en penses, toi? Citer les Pistons, les Knicks, les Celtics, ou toutes ces équipes là qui sont dans le top 6 depuis le début de la saison, les Raptors et tout. Tu vois ces Cavs-là, t'es un peu saoulé quand même.
Bah, c'est ce qu'on
là, tu vois le match contre les Nuggets, tu dis « Ah, putain,
bah, c'est chier. » Ce qu'on disait à l'apéro en sortie de transfert, c'est que moi, je considérais que les équipes de l'Est qui sont au-dessus voient ce move et se disent « fais chier ». Parce que les Cavs étaient un peu plus prévisibles, parce que les Cavs, une fois que t'es un Donovan Mitchell, c'était très compliqué, et que désolé, cette phrase n'est plus possible. Alors c'est pas un seul homme, parce que c'est un ensemble d'intégrations, comme t'as très bien précisé avec Keon Ellis et Dennis Schroeder, mais je pense qu'il y a des choses formidables qui vont se mettre en place là autour de ces Cavs new look. Ils ont plus d'options, ils ont un joueur de meilleur niveau que ce qu'ils avaient précédemment, c'est pas contre Darius Garland que j'ai hâte de voir avec les Clippers, juste, on n'est pas sur le même type de joueur. C'est un autre niveau, c'est un autre type de jeu, c'est un autre type d'aide défensive.
C'est un autre type de jeu surtout.
C'est un autre type de jeu. Moi, quand je disais que les Cavs ont très peu de capacité de provocation dans ses francs, un joueur qui met autant de tonicité balle en main, c'est pas contre Garland, c'est juste que c'est la réalité de Harden depuis qu'il a mis un premier orteil en NBA. C'est un mauvais jeu de mots d'orteil avec le pauvre Darius Garland qui va essayer de s'en remettre lui aussi à Los Angeles. Moi, je suis très positif par rapport à tout ça. Je pense qu'ils vont continuer, mais ouais, si je suis les équipes en haut de l'Est, je me dis chier. Fais chier.
Ça va être intéressant à suivre. Oui. Moi, vraiment, c'est le truc. Voilà, quand on commençait à réfléchir à préparer cette émission, c'est le truc qui m'est venu en tête aussi. Je me suis dit quand même, les Cavs là.
Je suis bien l'ami des fans des Cavs, parce que le jour du transfert, il y a eu beaucoup de gueules tirées.
Voilà, tu sais qu'au bout de deux matchs, ça doit déjà un peu se calmer.
Ben, je comprenais émotionnellement le côté on perd le petit prince et tout, mais je pense que là, je veux bien deux trois avis. À mon avis, ils sont en train de comprendre l'upgrade que ça donne. Et on verra en avril, parce que c'est là que ça va se jouer. Le transfert que tu fais là, c'est pas pour battre les Nuggets fin février.
Non. En tout cas, l'équipe, elle était déjà dans une dynamique bonne. Et là, je pense que ça peut devenir, non pas forcément tellement meilleur, parce qu'ils ont gagné beaucoup de matchs sur les 10 derniers, mais ça peut devenir meilleur dans le jeu, dans les options à la disposition de Atkinson et de son staff.
Bien sûr.
Voilà.
Pour rester dans la conférence Est, vous avez vu cette nouvelle récente qui est tombée? Jason Tatum qui retourne à l'entraînement du côté de la G League. Moi, c'est un des trucs que je vais observer le plus près sur les prochaines semaines. De quoi on parle? Les Celtics, dont on a parlé en septembre dernier, en se demandant ouais, qu'est-ce qu'on doit faire, tanking, pas tanking, qu'est-ce qu'on fait, saison extraordinaire. Et peut-être qu'en effet, il y a un trophée qui va aller du côté de Phoenix pour le coach de l'année, où d'autres vont discuter, mais je peux te dire que Mazzulla
ce qu'il fait cette saison,
ça s'appelle du coaching avec que des
majuscules. Il va être sur le podium du COI, hein, ça c'est sûr, on ne sait pas à quelle place, mais...
Et donc, moi, Boston, j'ai observé de très près, parce qu'en fait, ils ont intégré Vucevic. Et tu vois d'entrée là qu'en fait, Vucevic, il ne va pas y avoir trop de problèmes à Boston, ça va bien rentrer, il n'y a aucun problème, etc.
C'est un joueur de basketball dans une équipe de basketball, donc voilà.
Oui. Et donc, du coup, moi, je t'avoue que Boston, en l'état, ils ont fait le move à la deadline en se disant « c'est pas si terrifiant que ça en haut. Je pense que même si c'est une saison de transition, on peut essayer de faire quelque chose rien qu'en état, avec Jalen Brown, avec les gars qui se développent autour, en intégrant Vucevic. » Et on était sur la supposition d'un retour de Jason Tatum. On se disait « Tatum, Haliburton, est-ce que l'un des deux, ou 0 sur 2 ou 2 sur 2, vont revenir cette saison ?» On a la news de Tatum qui fait des potentiels entraînements et qui va peut-être monter en température. J'ai adoré les déclarations que j'ai vues récemment et de Brown et de Mazzulla et de Tatum autour d'un éventuel retour. C'est-à-dire que c'est la Celtics Nation, c'est la manière de faire, c'est la grande maison verte, c'est on est là pour la gagne. Donc s'il y a un retour, ça doit bien se faire pour pas briser la machine et pour que ça se passe de manière vraiment fluide. S'il y a une franchise et un coaching staff auquel je crois, c'est celui-là, celui de Joe Mazzulla, Sam Cassell et compagnie. On fait comment si là, mi-mars, tu commences à avoir breaking news, Jason Tatum makes his season debut, là, c'est une des plus grosses news de toute l'année, parce qu'il va avoir de l'intrigue sur sa situation physique, son explosivité, oui ou non, sa production, comment ça se passe
combien
pour le reste de l'équipe.
Combien de temps il faut pour se mettre en rythme vraiment, parce qu'il n'a pas joué depuis un bail.
Depuis un bail, et c'était en playoff au Madison Square Garden. Du coup, c'est énorme, parce qu'en fait... On va voir ces Celtics qui, certes, font une saison formidable, mais qu'on ne voit pas gagner le titre tel constitué sans le retour de Tatum, malgré toutes les surprises qu'on peut avoir en NBA. Mais on fait comment si, au 17 avril, les Celtics qui ont Jalen Brown, Derrick White, Joe Mazzulla, des role-players comme Nimi Asketa, Peyton Pritchard
Jordan
et compagnie,
Walsh,
Jordan
et tout,
Walsh et compagnie,
Sam Hauser,
et que tu rajoutes un petit Vucevic qui est là, en duo avec Nimi Asketa, que tu as des mecs qui pensent qu'ils peuvent créer la surprise, et que tu as Tatum qui revient bien.
Ils sont dangereux.
Mais pardon, dans la conférence Est, je dis pas que les mecs foncent jusqu'au titre, je dis juste que du coup, ça chamboule énormément de plans. Parce que du coup, pareil, si t'es les Cavs, ou si t'es les Pistons, ou si t'es les Raptors, ou si t'es les Sixers, ou si t'es les Knicks, tu te dis merde, je pensais à la base que c'était une saison sur laquelle on n'allait pas pouvoir jouer les Celtics de Brown et Tatum, et en fait, peut-être que si. Et ce que j'adore, c'est qu'il y a peu de pression sur ces Celtics-là. On le sait que normalement, le plafond de ces Celtics, c'est une chouette saison avec un petit push en play-off. Donc, ce n'est pas le retour de Tatum où soudainement, les gens vont dire « Ah, il a tout foutu en l'air, s'il n'était pas là, on aurait été chercher le titre, tu vois. » Il n'y a pas cette pression-là.
Non, ils n'ont pas ça.
Donc... Je vais observer, j'en reviens pas de dire ça, mais j'ai envie d'observer des échauffements et des entraînements de G-League de Jason Tatum. Parce que quand le mec il est là, ces 5-6 dernières années, c'est quoi? C'est un top 7 de la conversation MVP tous les ans? Et puis sa dynamique avec Jalen Brown, parce que Jalen Brown, là, ce qu'il est en train de faire depuis des mois, là, c'est somptueux. Tatum, il revient comment? La dernière fois qu'on l'a vu, c'était en demi-saison après le fiasco des Jeux Olympiques, et où il était en feu face aux Knicks, mais ensuite il s'est fait une grave blessure. S'il revient fort, ça va être un des plus grands moments de l'année.
Ouais.
Et je le souhaite. Parce qu'il a quel âge? Il a 28, 29 piges. Ouais. Donc il va revenir en plein prime. Quel Tatum revient? Et est-ce que c'est trop rapidement? Et est-ce que ça se passe bien?
Oh, ils prendront aucun risque.
Ils ne prendront aucun risque. Mais là, j'étais halluciné de voir cette nouvelle.
C'est clair. 27 ans.
Il a 27
ans. Il aura 28 ans en mars.
T'as l'impression que ça fait 15 ans qu'il en a.
Il aura 28 en mars.
C'est ouf. Ouais. Le mec, t'imagines pour son anniversaire, welcome back.
Bonjour. Ça peut être très dangereux.
Très hâte de suivre ces Celtics, je sais pas ce que t'en penses, mais tu l'as dit, il faut pas prendre de risque, quoi. Aucun, zéro.
Non, ils vont prendre aucun risque. Et s'il revient, je suis très curieux de voir combien de temps un athlète comme ça met à se remettre dans un vrai rythme. Parce qu'il y a revenir sur le terrain, prendre des minutes, retrouver petit à petit peut-être ton rôle de titulaire et tout. Et après, il y a être en rythme, pouvoir enchaîner les matchs, l'intensité des playoffs et tout. Donc... faudrait, pour que ça soit envisageable et qu'il soit vraiment là en playoff, il faudrait pas que ça traîne à ce qu'il revienne, quoi. Mais donc je sais pas, on va voir.
Tu vois quand par exemple, après je te donne ton point suivant, tu vois quand par exemple quand Steph était revenu de blessure et qu'il avait démarré les playoffs en sortie de banc, il y avait Jordan Poole qui était titu. Est-ce que c'est ça, Jason Tatum?
C'était une blessure moins grave.
Hein. C'était moins grave, mais ouais. Je veux dire, un des éléments forts de Curry qu'on a adoré, ah bah ouais. C'est qu'un mec comme Steph, il a fait, bon, moi, ok, si vous voulez, je suis le meilleur shooter de tous les temps et le plus grand joueur de l'histoire des Warriors, mais ça ne me dérange pas de démarrer les playoffs en sortie de banc.
C'est la classe de Steph, l'altruisme de Steph.
Ouais, mais c'est qui, Jason? Moi, je pense qu'il est capable, tu vois, de faire ça.
Ce qu'il fera, ce que lui dira de faire Mazzulla.
Bah, ça, c'est fort.
Je pense.
Et s'il fait ça,
j'y crois à ça.
Ça fait très, très peur.
Ah ouais.
Très, très peur.
Ah bah ouais, parce que t'as tout mon sixième homme pour démarrer tranquille, c'est, vrai, c'est dangereux.
On fait comment?
C'est très dangereux.
Ça sonne bien.
Ça sonne pas mal.
C'est très dangereux.
Alex, point suivant.
Je vais partir un petit peu à l'ouest.
Oula.
Je vais surveiller les dynamiques, les différentes dynamiques des prétendants de l'ouest. Parce qu'en fait, ce qui se passe à l'ouest là est très intéressant. C'est-à-dire que on se rend compte que du fait notamment de blessures hein, aussi, et puis de Spurs, à cause des blessures et des Spurs, le Thunder n'est pas aussi souverain que ce qu'on aurait pu croire après le début de saison. Pas aussi souverain.
Oui.
Ils sont en tête, ils ont quand même une petite avance, mais moins d'avance qu'avant. Hein. Ils ont 4 matchs d'avance sur les Spurs, donc ils sont partis quand même pour être premiers de l'Ouest. Hein. Ils sont en rythme et tout. Mais ils lâchent des matchs, on a des systèmes de jeu qui se mettent en place pour les faire chier. On a les Spurs qui, en Victor Wembanyama et ou De'Aaron Fox ou Stephen Castle ou que les shoots qui tombent dedans ont montré que en fait, en rentrant dedans, en jouant dur, il y avait moyen.
Il y a un playbook.
Il y a un playbook qui peut vraiment saouler le Thunder. On n'a pas encore vu les Nuggets vraiment. Les Nuggets, petit à petit, retrouvent l'effectif et tout. Là, bon, j'ai pas du tout kiffé leur dernier match contre les Cavs et tout, mais il manquait Aaron Gordon au passage. C'est un membre très important de ce groupe-là. T'as récupéré Christian Brown. T'as perdu Watson. Enfin, en gros, les Nuggets, on n'arrive pas à s'en sortir des blessures.
C'est
alors
chaud,
que.
Ça.
Bah oui, ça c'est chaud, mais il y a encore un peu de temps. Donc, est-ce que les Nuggets sont capables de être en ordre de marche d'ici la mi-avril? Si oui, équipe ultra dangereuse. Le Thunder, je l'ai dit, favori. Mais avant, ils étaient genre favoris. Maintenant, la demi-conf Nuggets Thunder ou Spurs Thunder ou quoi. Bon, bah je veux bien voir un peu ce que ça donnera au niveau des cotes ou au niveau des avis dans la communauté, parce que je pense que il y a moyen qu'il y ait des gens qui disent attendez, Wembanyama, Chet Holmgren pendant 4 matchs, mais il va en faire de la chair à canon.
Ou les aveux de Shea ou le poignet de Jay Williams.
Ça serait pas en demi-conf a priori le Spurs Thunder, encore que les choses peuvent bouger, ouais. Hein, parce que après je trouve quand même que le Thunder a un petit matelas. Les Spurs ont un petit matelas sur le troisième, mais ça peut vite bouger.
Ça va très, très vite,
il reste beaucoup de matchs, il reste une trentaine de matchs, 28 matchs, à peu près 28-30 matchs par équipe. Donc ça m'intéresse beaucoup. Et derrière, les Rockets sont pas si loin que ça des Nuggets. Les Lakers sont encore tout à fait dans la course et on sait que même s'ils sont pas réguliers et tout, ils bénéficient d'un pouvoir offensif de fou furieux.
Houston et Minnesota là en ce moment, c'est ouf.
C'est quoi, c'est-à-dire?
Bah, c'est compliqué. Hein.
Bah, c'est compliqué. Oh, et en même temps, on sait que ce sont des équipes qui, une fois arrivé le moment des séries en 7, seront des équipes tactiques, avec des joueurs d'expérience, avec des raquettes qui jouent dur, qui viennent te tabasser au rebond, qui te rentrent dans la bouche. C'est-à-dire que si t'es les Spurs et qu'au premier tour de playoff, tu dois jouer les Wolves ou les Rockets, t'es peut-être favori, t'as l'avantage du terrain, je suis pas sûr que tu sois hyper content.
Bah, c'est les Rockets de dernière.
Un peu.
Qui sont deuxième de l'Ouest et on dit il faudrait peut-être pas aller choper les jeunes au premier tour. Après, je leur souhaite bon courage, hein. Mais c'est vrai que c'est un peu ça.
Voilà, il y a un peu de ça. Et donc, en fait, ça fait beaucoup d'équipes. Thunder, dans l'ordre du classement d'aujourd'hui, hein. Thunder, Spurs, Nuggets, c'est quoi le quatrième? C'est les Rockets. Ouais, Rockets, Lakers, Wolves. Ça fait 6 équipes là qui dominent l'Ouest depuis le début de saison. Et on verra, je suis très curieux de voir dans quel ordre tout ça va finir. Je suis très curieux de voir, est-ce qu'il y a une équipe qui, là, au mois de mars, va s'être à super carburer, enchaîner, je sais pas, je dis n'importe quoi, les Rockets ou quoi, genre ça s'enfile bien, ou il y a un coup de mou d'une autre équipe, ou alors les Nuggets qui récupèrent tous leurs blessés, et tout d'un coup, on se dit, oh là là, toi et moi, on fait un apéro début avril, on fait, oh putain, ah, ils sont à 100%, oh là 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 là, t'as vu, là, ils sont sur 8 victoires d'affilée, Jokic a même pas joué les quatrièmes quarts, un peu le Thunder de début de saison. En fait, ce qu'a fait le Thunder au début de saison, est-ce qu'il y a une équipe qui peut donner un sentiment comme ça de super dynamique sur la fin de saison?
Bah, il faut. Hein.
Parce que là, il y a une bataille. Rien qu'au premier tour de play-off à l'Ouest, il y a deux, voire trois équipes qui vont sortir du premier tour de play-off à l'Ouest. Genre, c'est une catastrophe, c'est une déception de fou.
Bah, ouais.
Et à l'Ouest.
Et donc voilà, je le trouvais beaucoup plus hiérarchisé en première partie de saison. Je trouve que maintenant, c'est un petit peu moins clair. Ouais. Et qu'en fait, entre les Spurs qui performent mieux que prévu, les Nuggets qui ont eu plein de blessés, les Rockets qui souffrent de l'absence de meneur, les Lakers qui sont incapables d'être réguliers trois matchs de suite défensivement, et ainsi de suite, il y a pas mal de choses qui font que chacune des équipes que je viens de citer peut se dire « Attends, genre, redis-moi pourquoi je pourrais pas aller en finale NBA ?» Genre, je peux y aller en fait.
Oui, moi je t'avoue, voilà. Je suis d'accord. Ouais, c'est vrai qu'à l'Ouest, moi je t'avoue que je.
Genre, toi t'es fan des Spurs. T'as envie de jouer qui au premier tour là?
Personne, parce que même j'ai envie de me faire chier contre Dion Brooks et les Tessons là.
Ah, je vais en parler plus tard.
Oh, oui, je sais, j'arrive. Mais tu vois. Oui, mais tu vois, ça aussi.
Là, j'étais dans le top 6.
Oui, mais tu vois, c'est relou.
très relou.
Mais tu vois, je continue de penser.
C'est quand même un peu mieux, je pense.
Je continue de penser, peut-être à tort, mais je continue de penser que le Thunder doit juste gérer les ados de Shai Gilgeous-Alexander. Bien sûr. Et le poignet de Jen Williams pour en fait avoir une vraie marge sur l'ensemble de la concurrence NBA. Voilà.
Moi, je pense que c'est pas si évident.
Pour moi, s'ils ont ça, ils ont une vraie marge. C'est le champion en titre qui a le même effectif, qui défend le mieux de toutes les franchises NBA et qui doit trouver son rythme de fin de saison. Mais là où je suis inquiet, c'est que Jen Williams, le poignet, ça reva toujours pas. Et donc, si Jen Williams, il est pas à 100%, c'est une autre affaire.
Les équipes en face les jouent pas pareil. Ouais. Ça, tu sais, c'est la NBA, ils s'adaptent. Hein.
Ah bah, mais après, oui, j'ai envie de te dire, la montée, de toute façon, c'est simple. Hein, moi, les premiers playoffs de Victor Wembanyama.
En plus.
Vous allez surveiller ça ou pas?
L'autre, moi, il va arriver. L'autre, il va arriver. Ça se trouve, on n'est pas prêt, hein.
Déjà, l'autre, il fait une saison à peu près complète. Ils sont deuxième à l'ouest en étant un peu mieux entourés. Ça donne quoi les premiers playoffs de Wemby en fait?
Ouais, et puis les premiers playoffs de KD sous le maillot des Rockets. Ouais. Genre là, quand tu vois le niveau de jeu cette saison de Jamal Murray, tu te dis quand même que les Nuggets sont complets.
Non, mais dans le haut de l'ouest, ça va être une boucherie.
Boucherie! Ouais. Donc ça, je vais vraiment surveiller les dynamiques sur la fin de saison. Les blessures, on ne les souhaite pas, mais il y en aura sûrement. Est-ce qu'elles sont grosses, petites? Est-ce qu'il y a une équipe qui se met vraiment en place? Ou tu sais, le truc de tout d'un coup, on se dit, putain, dis donc, les Rockets, sur la fin de saison, ils ont la meilleure défense de la ligue et c'est pas une discussion quoi.
Et ils ont enfin ce genre de truc.
Voilà. Ouais. Bref. Donc voilà.
Ils ont trouvé comment utiliser Shepard et c'était. Bref, encore à définir.
T'as quoi?
Bah, vu ce qu'on a parlé d'équipe de qualité, il faut que j'aille dans les profondeurs. Ah, vous le savez, c'est ma rengaine. Chaque année, c'est la même. On arrive mi-février. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la course au tank. Non seulement la course au tank, parce qu'il y a des équipes qui sont nulles, et qui vont aller se chercher une bonne petite place dans le bottom 5 de l'NBA, ou le top de l'horreur, si vous préférez. Ça, c'est la première chose. Deuxième, attention, surveillez la QV 2026. Si vous êtes sur les réseaux de Trash Talk, il va y avoir la March Madness qui va démarrer. Mesdames et messieurs, attention, Caleb Wilson, AJ DiBanza, Cam Boozer, Darren Peterson et d'autres qui sont dans le rétroviseur un petit peu là. On est sur des franchises changers.
Et le tanking de cette année.
Tanking, c'est très bon. Là, ce que les Wizards ont envoyé l'autre jour contre les Knicks, là.
Oh là là là.
Même moi, j'étais annoncé un certain.
Ils sont gonflés, là.
Même moi, ils m'ont dit
non, ils sont super gonflés.
Et donc, du coup, il y a des petits jeux. Il y a des petites subtilités. C'est-à-dire, bon, si tu es, je dis n'importe quoi, Sacramento, et que tu as le pire bilan de toute la NBA, est-ce que tu as la fameuse curse de tu as le pire bilan et tu finis 5e de la draft? Ce qui serait très Sacramento, tu vois. Hein, t'as le pire bilan et tu finis 5e parce que la loterie a été nulle. Les Hawks, leur pick va aux Spurs. Comment se passe la fin de saison des Hawks avec quoi? Avec Jalen Johnson et des trucs. Mais du coup, les Hawks surveillent la bataille entre les Pels et les Bucks. C'est les Pels et les Bucks. Ouais. C'est les Hawks qui ont le meilleur pick des deux. Oui. Donc du coup, ça se passe comment?
Ça se passe bien pour les Hawks.
Bon, ça se passe très bien, mais tu sais que la loterie peut jouer des tours.
Oui. Ah,
et donc
du coup,
comment ça va se passer pour Washington, pour Indiana? Indiana, c'est formidable. Ça fait très très bien. Sacramento, Indiana, Washington, Brooklyn, Utah, Dallas.
On a quand même 6 équipes là qui rigolent pas du tout. Hein.
Je sais pas si t'as vu la deadline des Grizzlies.
Ouais.
On est bien.
Ils sont pas là pour gagner des matchs.
On y va pour un, hein, tu vois. Hein.
C'est pas le but.
On est là pour bottom. Et donc du coup, j'ai hâte de voir parce qu'en fait, si ça se trouve, Utah, on va se regarder, on va dire, bah, c'est pas mal les gars, vous avez récupéré JJJ, mais en fait, avec vos bêtises, à voir. Hein. Mais si ça se trouve, t'as les Grizzlies qui font, putain, yes mon gars. On a perdu 17 des 18 derniers matchs. On est passé devant Utah. Et du coup, les Grizzlies, à un coup de déprêt ou de balle de ping-pong, comme vous le souhaitez, peut changer son futur à court, moyen et long terme. Donc, je vais observer ça. Il y a les franchises. Où est-ce qu'elles vont se situer? Les Bucks, aujourd'hui, ils sont à 21-30. Ils sont 9e. Leur pic est censé aller... Soit il va à Atlanta parce que c'est le pire bilan, mais il faut aller chercher les Pelicans. Mais tu sais que les Bucks, s'ils gardent leur pic, attention. À voir aussi comment ça peut se passer. Et donc, à surveiller tout ça, les Clippers,
les
ça va
de
mieux.
Cam Thomas.
Absolument. Avec un éventuel retour de Giannis, on va voir. Hein. Mais les Clippers, on le savait aussi en début de saison, leur pic allait au Thunder. Là, ça revient très très bien, on va en parler. Mais si ça continue comme ça, formidable. Si Kawhi, qui joue comme le meilleur basketteur de la planète depuis 5 semaines, se fait le sacro-saint genou là, de fin février, ça se passe comment pour les Clippers? Sans Zubac, sans Harden, sans Kawhi, avec un demi-Garland. Bon, j'ai trop hâte de cette course au tanking. Parce que autant, l'année dernière, tu avais le sentiment qu'il y avait Cooper Flagg et derrière des joueurs de très gros talent.
Hein. Il y a beaucoup de gros joueurs.
Là, les 4 premiers... On va en faire des profils et tout, la totale et machin. Mais si vous me dites que vous avez un de ces quatre-là en premier de la draft, j'ai
attends,
pas de problème.
Attends, c'est qui tes quatre? Peterson, c'est Boozer.
Darren Peterson, Cam Boozer, AJ DiBanza, Caleb Wilson.
Ah, Caleb Wilson.
Après, vous mettez qui vous voulez après.
Il y a des joueurs.
Il y en a d'autres. Il y a des
c'est
phénomènes.
C'est une grosse cuvée.
Mais la March Madness, là, tout sera relayé sur les réseaux de Trash Talk. Donc, si vous voulez voir les pépites de demain, très très hâte de suivre ça. Parce que parfois, tu sais, les matchs de tanking sont... agréable à regarder pour les scores. Et puis les matchs de NCAA, on est là genre, putain, t'as vu qu'en demi-finale, le mec, en antenne nationale, il nous a envoyé un match. On n'avait pas vu ça depuis Michael Jordan à North Carolina. Voilà. Vive la loterie, vive le tanking. Qui va prendre la place des Mavs? Est-ce qu'il y a une équipe qui finit avec le 10e pire bilan et se retrouve avec le numéro 1 de draft? Ou est-ce qu'on va être dans un cas classique de Indiana, pire bilan de l'Est, bravo pour le numéro 1 de draft? On fait quoi si c'était Tyrese Haliburton sur... quelques jolis tankings qui a Tyrese, Siakam, Ivica Zubac et le numéro 1 de la draft.
Eddie Banza, par exemple. Au hasard.
Voilà, très très hâte. Vraiment la course au tanking là, allez-y. Rayonnez les gars, c'est très très fort. Point suivant, cher Alex.
Je vais rester à l'ouest. À l'ouest, je vais quand même surveiller, petit point pour Cooper Flagg, qui... reste une motivation certaine à regarder les Mavs, même si les Mavs...
qui pourraient être achetés par Mark Cuban.
Ils font... Ouais, j'ai vu. Les Mavs qui...
Contre Kems.
Les Mavs qui... Ouais, c'est clair. Comment ça, il n'y a plus Doncic? Merde, il est où Doncic? Ah mais, d'accord, il y a Cooper Flagg. Donc, Cooper Flagg est en train de nous poser une saison de rookie. Il y a eu un moment, là, t'as vu, il y avait un mini rookie wall. Il l'a dit lui-même, il a dit « Oh là, c'est quand même beaucoup plus long, c'est incroyable, d'habitude à cette époque-là de l'année, le nombre de matchs que j'ai joué, bah en fait c'est une saison universitaire, là c'est oui. Vrai qu'il en a été au tiers. » En fait, bon, il a trouvé un second souffle, hein. l'ami Coupi-Coupi. Il joue dans une équipe qui perd, et qui n'a pas trop l'intention de gagner, avec où les meilleurs joueurs sont blessés, où ils se font trader, mais en gros il joue avec Najee Marshall, Brandon Williams...
Mossissé.
Ryan Nembhard et Mossissé. Mais l'autre, il crève l'écran. C'est il est trop fort. Et tu vois la cuvée là, de cette année, elle est incroyable la cuvée. Sur le papier, elle est incroyable. On a des joueurs, on a trop hâte de les voir en NBA. Là, t'as parlé de Darin Peterson, le fiston Boozer, Caleb Wilson ou AJ DiBanza, ok. Mais... Cooper Flagg, lui, c'est pas sur le papier, là, c'est sur le terrain. Là.
Bah, s'il y en a un qui a le niveau de Cooper Flagg, déjà, ça serait une très belle cuvée.
Bah, ça serait une cuvée de malade. Cooper Flagg, là, un niveau de grand malade mental. Il est en train de fumer tous les records de précocité, et pourtant, Dieu sait qu'il y a 2-3 gars qui sont passés par là, pas trop vieux, et qui ont envoyé du sale au niveau précocité. L'autre, il est en train de tout fumer. Dans des défaites, évidemment, mais il a envoyé 2 énormes double-double, là, fin janvier, là. 49 points, 12, 10 rebonds, 12 ou 10 ou 12 rebonds dans une défaite.
Il a affronté Con Cooper, voilà. Hein, donc ça, comment ça motive. Il a affronté
voilà.
Son
poteau, ensuite, le, 2 jours après, il te fait un 34-12. Il a progressé là, pendant sa saison rookie. Son potentiel athlétique est phénoménal. Son toucher est incroyable. Le shoot, ça reste son point faible à 3 points, on le savait. Va falloir qu'il bosse, mais il y a un geste, il y a un truc et tout. La compréhension du jeu, la polyvalence, le mec sait déjà tout faire. Tout faire en attaque et tout faire en défense. Non, vraiment, c'est un rookie absolument incroyable. Et ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un rookie aussi fort, là, comme ça, des deux côtés du terrain. Vraiment, ça fait très très longtemps. Aussi athlétique et tout. C'est un monstre absolu. D'ailleurs, les Mavs, bah, ils s'y trompent pas. Hein. Ils sont en train de virer tout le monde. Et puis de construire tout de suite autour de Cooper Flagg.
Plus fort que Wemby, c'est un rookie ?
Je suis pas sûr. Mais déjà, c'est un truc de fou.
Ouais, par rapport à ta question, ça fait très longtemps qu'on
ouais,
a pas
bah oui, c'est
ça.
Vrai qu'il y a Wemby, ça fait pas longtemps.
Mais après, derrière Victor, c'est chaud.
C'est pas un ailier. En fait, effectivement, t'as raison. Il y a Wemby. Après, dans les joueurs comme ça, extérieurs, porteurs de balles. Je sais que vous allez me dire, Wemby porte la balle, mais Cooper Flagg, Jason Kidd, lui dit, tiens, tu vas être premier ball handler, là. T'es meneur, mon gars. D'ailleurs, on le critique, Jason Kidd, pour ça. En fait, il essaye de travailler autour de Cooper Flagg. Je rappelle qu'à une époque, il a fait ça à Yanis, hein.
Oui.
Et que bon, finalement, Yanis, on n'est pas trop mal sorti.
Oui.
Non, mais je sais pas, depuis LeBron James, il y a quoi comme rookie?
Tyreek Evans, c'était très, 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 très fort. Luka Doncic nous a fait du sale en 2019.
Ouais, c'est différent.
Mais c'était un côté du terrain.
Ah ouais, rien à voir. Très fort, plus fort en attaque, mais alors rien à voir en défense.
Non, non, Scottie Barnes a été formidable. Ben Simmons était très chaud à son arrivée. Mais
Scottie Barnes, c'était pas ce niveau-là.
Ouais, non. Non. Non, des deux côtés du terrain, il faut remonter à KD 2008. Quoi.
Voilà. Voilà.
Ou LeBron 2004.
Voilà. On est dans ce genre de catégorie. Donc, même si c'est pas très excitant la fin de saison des Mavs, parce qu'on se doute qu'il y a des mecs mis à l'infirmerie, Kyrie va pas jouer sûrement, Anthony Davis est parti. Bref, ils vont tanker et tout, mais curieux de voir un peu Cooper Flagg, tant qu'il sera pas shut down par le management. Moi, je prends plaisir à regarder ce jeune joueur faire ses premiers pas.
Quand on va faire les 30 prévus, il aura 19 ans.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Avec du poil au menton. Hein. Il aura pris un an d'expérience, il aura 19 piges.
Ouais. Ouais. Non, il est trop fort. Trop fort. Trop fort.
Bien joué. Hein.
Les mecs qui arrivent là, de la QV, là, ils sont à peine plus jeunes que lui. À peine.
Ah, il y aura des sophomores de NCAA qui vont arriver et vont dire je suis plus âgé que toi. Hein.
Non, mais même là, les monstres, là, le fils Boozer, je crois qu'il est à peine plus jeune que Cooper Flagg, en fait.
Moi, là où je m'attendais pas, il y avait des trucs qu'on pouvait s'imaginer et tout, la polyvalence et tout, machin, on imaginait. Mais l'autre jour, j'ai vu un visuel, tu sais, quand t'as des stats comme ça qui s'accumulent, où tu te dis, attends, mais on n'a pas vu un rookie scorer comme ça depuis Allen Iverson. J'ai fait, hein? Comment ça? Genre, sur 5 matchs, c'est la première fois qu'on voit un rookie mettre 100, tu sais, genre 150 points en 5 matchs. Je fais, mais c'était pas. Genre,
de tous les visuels improbables, moi, celui-là, il est tout en haut de la planète.
Tout en haut, c'est un truc.
Parce que Cooper Flagg, best scorer en arrivant en NBA, c'était.
Non.
C'était une perspective, c'était pas là.
Non, mais c'est un malade au scoring. Et à la passe, hein.
À la passe.
Et puis il a un vrai apport au rebond. Non, honnêtement,
c'est
il est très, très fort.
C'est ridicule.
Il est très, très fort. Très, 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 très
bravo,
fort.
Dallas.
Ouais. Ah, bravo.
Bravo.
Bravo, la loterie. Enfin, allez. Bah, tiens, enchaîne.
Ah, en parlant de jeune phénomène, sans transition, en parlant de jeune phénomène, jeune phénomène. J'ai très, très hâte de suivre les dernières semaines de LeBron James aux Lakers. Je répète la phrase. J'ai très très hâte de suivre les dernières semaines de LeBron James aux Lakers, qui sont en fait peut-être les dernières semaines en carrière de LeBron James, ou, comme j'aime le dire, les dernières semaines en carrière de LeBron James aux Lakers. Je continue de penser que le pépère, il va nous faire une free agency et qu'on va le retrouver encore une dernière saison. Voilà, tour de stade, on y va. Par contre, là, moi vraiment, je le dis face caméra, je suis absolument sur le cul si l'année prochaine, dans le tableau des départs des Lakers, il n'y a pas LeBron James. J'arrive pas à voir. On n'arrête pas d'avoir des dossiers qui sortent sur les relations entre soit LeBron, Ginny Buss, Pelinka, le staff, le coach, les décisionnaires,
Clutch
le nouveau proprio, Clutch Sports et tout. Enfin, en gros, ça pue. Moi, je souhaite aux fans des Lakers de vivre une grande aventure de playoff, mais il y a quand même beaucoup de gens qui grincent des dents pour les réalités défensives qu'on connaît. Je ne pense pas du tout qu'on est en train de voir les derniers matchs en quart de LeBron. Si c'est le cas, il faut en profiter à fond. Mais je continue à me dire qu'il va y avoir une belle free agency avec LeBron qui nous dit soit I'm coming home, soit je sais pas, un truc LeBronesque. Tu vois, un truc qu'on n'a jamais vu auparavant. Mais par contre, je pense que c'est la dernière fois ce sont les derniers matchs qu'on est en train de voir de LeBron James avec le maillot des Lakers. Et rien que ça, c'est une phrase énorme. Pour le maillot qu'il aura porté le plus longtemps dans sa carrière, sauf accumulation des deux séquences Cavs. Ça fait depuis 2018 qu'il est aux Lakers ?
Ouais.
L'été 2018.
L'été 2018, ouais.
Donc, ça fait 8 saisons
ouais.
qu'il joue avec les Lakers ?
Ouais.
Il y a gagné un titre. Il a dépassé Kareem Abdul-Jabbar au scoring en total. Il y a fait des performances de dingue. Il a fait la bulle. Il a fait quand même des choses où, je crois que c'est Jacques Monclar qui en parlait très très bien récemment. Moi, je peux comprendre que, même si j'aime pas parfois le personnage sur ses déclarations, il a eu besoin, lors du titre de la bulle, de dire un peu de respect quand même par rapport à ce que je suis capable de faire. C'est-à-dire qu'avec les Lakers, le mec, il aura quand même envoyé du bois, quoi. On peut ne pas aimer le personnage, on peut ne pas aimer certaines choses, mais LeBron aux Lakers, c'est quand même un truc de ouf. On peut encore imaginer juste séquencer ça et dire bah encore 25 points, 7 rebonds et 7 passes avec des performances de fou malade. Et puis, on est allé avec Darvin Ham en finale de conf, on est allé avec machin en finale NBA. Enfin, c'est ouf, quoi. Je crois qu'on est sur le clap de fin. Et donc, il faut profiter de ça, de LeBron dans cette franchise, parce qu'un joueur aussi extraordinaire dans une franchise aussi iconique, c'est pas tous les jours. Mais par contre, je pense qu'on rempile derrière, pour une dernière. selon toi, qu'est-ce qui va se passer?
Cleveland. S'il doit remplir quelque part.
Parce que vous avez fait les hot takes en début de...
Simon, il avait dit Cleveland, et moi, j'avais dit c'est fini.
Ça finit. Là, tu penses que c'est un peu plus, ça repart?
Non, je suis pas sûr.
Tu penses que ça pourrait finir là-dessus?
Ouais, moi, ouais. Je pense que on n'est pas à l'abri, après l'All-Star Game de LeBron, qui annonce que ça sera sa dernière campagne. Parce que oui, il y a le rêve Cleveland, il y a le côté histoire incroyable, il revient encore au pays pour rendre service à l'équipe en mode remplaçant ou je ne sais quoi, parce que Cleveland, c'est quand même, c'est quoi, il va prendre la place d'Evan Mobley genre...
Non, mais peut-être que Jalen Tyson, il acceptera gentiment d'aller sur le banc.
Ouais,
quand même.
Bien sûr, mais genre, est-ce que aussi, ce passerait pas aussi de LeBron de dire...
Non, mais il fera un effort financier.
Ah bah ça, oui, évidemment. De toute façon, les Cavs n'ont pas les moyens, sinon.
Non, non, c'est sûr.
Mais... Oui, ça existe, mais bon, 41 ans, vie de famille à Los Angeles, c'est quoi, il déménage avec toute sa famille, ou il se prend une garçonnière, là, non, à Akron. Bon,
il a encore quelque chose à voir.
Oui, non, mais ça, c'est sûr que ça serait une garçonnière de qualité, hein, c'est sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas sûr.
En fait, la question que je te posais, c'est est-ce qu'on est d'accord sur le fait qu'on est en train de vivre les derniers moments de LeBron James aux Lakers?
Ça, oui.
Je suis
d'accord.
Donc ça, c'est quand même
la vraie question. Mais oui, c'est un truc de ouf. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'il va faire derrière?
Évidemment, c'est savoir si la retraite. Moi, je pense qu'il prend pas la retraite là, okay, maintenant.
Donc il est agent libre.
Voilà.
Et il signe quelque part.
Exactement. Et donc quelque part, on va voir aussi ces Lakers là tourner une page. C'est-à-dire qu'on va suivre.
Ça sera
selon
les Lakers
moi,
de Luka.
Et d'Austin, et ou de Austin, et enfin tu vois, il y a plein de choses.
Mal signé, ouais, tout à fait.
Et donc, avec un changement de proprio qui a eu lieu l'année dernière, qui est un truc sismique par rapport à des années et des années et des années de Family Bus, ça veut dire quoi par rapport à tout, enfin Pelinka, la façon dont le dossier LeBron a été géré au final, comment est-ce qu'on va regarder ça en arrière? LeBron est parti de Los Angeles comme ça, enfin.
Ouais.
Ok?
Non, bah, pas comme ça, mais.
Si on sort sur un premier tour encore face aux Wolves, on fait comment?
Ah, bah, ça, c'est sûr que là, bah, on verra.
Enfin, comme face au Blues l'année dernière, mais là, cette fois, c'est peut-être le Thunder ou j'en sais rien, ou
oui,
les
bah,
Nuggets.
Ouais.
On verra, mais bref, à vous de me dire, mais j'ai l'impression, Laker Nation, qu'on est en train de vivre les derniers matchs de LeBron avec ce maillot-là, et que je sais pas, attends, je vais essayer de me mettre juste les chiffres sous les yeux, je te prends deux secondes. LeBron aux Lakers, en carrière, il y a 8 saisons, il y a 454 matchs. Au total, Cleveland, il y en a 11, mais parce que c'est splitté en deux.
Ouais.
Il y a 500 matchs. Il y a 26 points, 7 rebonds et 8 passes de moyenne. Il y a un titre. C'est, avec Miami, son meilleur pourcentage à 3 points en carrière. C'est, avec Miami, ses meilleurs pourcentages au shoot. C'est... Je sais pas, c'est un pan énorme quand même de la carrière de LeBron, quoi.
Ah ouais, mais c'est un pan énorme de la carrière de LeBron qui va se fermer. J'avoue que moi, ça m'intéresse de suivre ça. Ce qui m'intéresse surtout, c'est est-ce qu'il donne des indices sur une éventuelle retraite ou est-ce qu'il donne des indices sur je vais être agent libre et puis je vais voir ce que je vais faire.
Oui.
S'il y a des offres qui m'intéressent ou pas, parce qu'il va pas aller... Enfin, je veux dire, s'il est agent libre et que les Hawks proposent un contrat à LeBron, je suis pas sûr qu'il a envie d'y aller.
Ou les Suns qui t'a
envoyé. Ou les Suns. Ah, les Suns, il pourrait avoir envie d'y aller. Pour jouer avec Booker. Avec Booker, avec le coach de l'année.
Quelle signature avec Dion Brooks?
Yes. Bah voilà.
LeBron et Dion dans la même équipe.
Bah ouais. Bah ouais.
Pour avoir.
Bien sûr.
Non, et bref, le King, voilà, on va
avoir ses ennemis près de soi.
Bien sûr. À surveiller quand même le roi, parce que c'est pas rien, quoi, cette affaire. Je pense pas. Autant pour Steph, tu vois, bon, la deuxième partie de saison, merci. Je vais en parler dans quelques secondes. Mais LeBron, quand même, il y a un truc.
Il sera encore aux Warriors la saison prochaine.
Oui, mais là, il est en civil et là, il regarde la fin de la saison quasi en survêt. Hein.
Ouais.
Les Warriors ne vont pas nous faire une dinguerie, je pense qu'on est d'accord.
Je sais pas.
Les Warriors ne vont pas.
Never underestimate, Bastien.
Ouais, bah, je vais parler de Steve Kerr dans quelques secondes, tu vois. Vas-y.
Moi, je vais parler des Suns. C'est mon quatrième point.
Alex, il surveille que l'Ouest sur la fin de saison et les Cavs.
J'ai dit les Cavs et puis j'ai un petit truc à l'Est après, en 5.
Vas-y.
Ouais, les Suns, bah ouais, est-ce que les Suns vont aller en play-off?
Ouais.
Bah on espère, ça sent quand même le play-in, donc après le play-in, tu sais, il peut se passer des dingueries. Hein.
Moi je veux une viewing party avec Alex et les Suns.
Tu peux tomber sur les Clippers, mal embouchés et tu vas pas en play-off. Hein. Ça peut arriver des choses comme ça. Hein,
mais là, t'as vu qui vous avez dans le rétro?
Là, on a les Warriors
quoi,
dans le rétro.
Quoi, t'as peur de Portland, Alex?
Non. Les Blazers,
ça mérite d'être clair.
Bah non, j'ai pas peur. Non, j'ai pas peur. Après,
t'as peur des Clippers
sur un match? Plus peur des Clippers sur un match, oui.
Non, mais là, sur la fin de saison, là,
moi, ce que j'aimerais, c'est ce que je vais surveiller sur la fin de saison, c'est est-ce que les Suns. J'ai parlé des dynamiques des équipes au-dessus. Si par hasard, il y en avait une qui pouvait glisser. On ne sait pas. Allez. Ça peut arriver.
Vas-y, qui?
Un blessé. Les Rockets, les Wolves, qui n'ont pas forcément des dynamiques de fou en ce moment, mais qui sont des équipes très fortes, hein, attention. Mais ça peut peut-être glisser. Une blessure malheureuse, une mauvaise série, un petit sujet comme ça. Je pense que c'est une opportunité qui sera très intéressante à suivre pour les Suns, qui ont un mini coup de mou, là, avec deux défaites d'affilée. Truc comme ça, dont une assez frustrante contre les Warriors, là où ça menait, ça devait
ça
gagner.
Ça, vous avez déconné. Hein.
Ça devait gagner,
contre
tu vois.
Contre l'équipe F en plus.
Ça, bah voilà, jamais tu dois perdre ça. Donc ça, c'est. Voilà, il y a. Est-ce que les Suns sont capables d'entretenir sur le dernier tiers de saison le rythme de la magnifique première partie de saison qu'ils font ?
Mm-hmm.
Première question. Deuxièmement, s'il y a une équipe qui glisse un peu, qui dérape depuis le top 6, est-ce que les Suns sont capables de tout de suite saisir l'occasion et boum ! On s'installe dans le top 6, comme ça on s'évite le play-in et puis on voit ce qui se passe en play-off. De toute façon, les Suns en play-off, honnêtement, c'est que du bonus là, par rapport à ce qu'on pensait au début de saison.
Même là, il y a un astéroïde sur la saison,
que
votre saison c'est du
bonus. Ils ont déjà plus de victoires que ce que je leur donnais en preview, je pense.
Mais quasi clairement.
Pas loin. Non, l'année dernière, 36.
Et vous avez combien là ?
31.
Bah attends.
31, ouais.
All-Star ah oui, break, vous allez carrément avoir le même
non,
total.
Non, mais là, les Suns sont sur,
pardon,
ils sont sur une saison où on va dire qu'ils peuvent viser les 45, 46, 47
c'est
wins.
Magnifique.
C'est incroyable. Mais il faut aller à ça parce que c'est ça, c'est ce nombre de wins-là qu'il va falloir pour être dans le top 6. Si jamais il y a une équipe qui glisse au-dessus.
Et tu veux pas être le poil à gratter là, du site 2 là ? Genre, vous êtes sorti tranquille du play-in et vous allez faire chier quelqu'un là au premier tour en étant en 7ème ?
Oh, je préfère pas passer par le play-in, moi, perso.
Ouais, bon là, tu demandes le caviar et les courgettes, les assiettes.
Non, et... t'es à un match des Lakers et des Wolves, t'es à deux matchs des Rockets, enfin, un match et demi des Lakers. Si une de ces équipes-là glisse, il faut saisir l'occasion et passer.
De toute façon, s'il y a une des équipes qui se fait passer par les Suns, le coach est viré. Mais je vais en reparler après.
Possible. Possible.
Le disrespect envers Jordan Hood qui est incroyable. Mais juste là, si tu finis la saison et les Suns sont devant toi, tu passes
il
pas
est quatre. Incroyable. Le travail de coaching est incroyable. Le travail de l'équipe est incroyable. Il y a des joueurs dans ce groupe qui se révèlent complètement. Là, Jordan Goodwin, l'autre, c'est devenu un défenseur sur l'homme. Relou. Booker fait une saison de leader, mais pas une si bonne saison que ça d'un point de vue statistique. Tu vois, il shoot pas hyper bien et tout. Là, il est invité au concours à 3 points. Booker, franchement, il va pas le gagner. Hein. Spoiler. Hein. Ah, il va pas le gagner. Hein. Ça, je vous le dis. Non, mais c'est sûr. Ah, je vous le dis, il va pas le gagner.
Séquence.
Ah, bah non.
A few moments later.
Bastien peut le prendre, je suis sûr. Non. Franchement, non, il va pas gagner le concours à 3 points. Par contre, en tant que leader et dans ce qu'il apporte dans le jeu, la façon dont il fait jouer les copains, parce qu'il est premier ball handler de cette équipe, c'est super. Les révélations à la Colin Gillespie ou Mark Williams qui se blesse plus et qui envoie des doubles-doubles, il n'y a plus qu'à savoir en faire, pardon, mais c'est juste. Elle est incroyable cette saison des Suns. Donc moi j'ai envie qu'elle aille en play-off. Sans ambition particulière parce que je pense que les équipes au-dessus sont mieux armées, plus fortes, individuellement et même collectivement. Tu vois, donc ça sera très compliqué pour ces Suns-là de gagner des séries en 7. Par contre, ils seront bien pets de couilles à jouer. Bien pets de couilles à jouer. Hein.
Regardez incroyable. Regardez ce qui se passe hein, quand vous changez un petit peu votre
Ah, il y a eu du gros changement.
Franchise.
Ouais. Changement de coach, changement de joueur. Donc voilà, donc j'espère, je vais surveiller ça très fort. Est-ce qu'ils peuvent m'entretenir cette belle dynamique et sur un malentendu se glisser dans le top 6 ? Ça serait cool.
Très bien. Vous le savez, parfois on aime bien les joueurs et puis parfois je vous emmerde avec les histoires de coach et de GM et de proprio. On va surveiller de très très près et à titre perso, je surveille de très très près nos amis les coachs sur le siège éjectable. Allez, on s'installe. Chris Finch, Al Mosley. Il y a des coachs comme ça que j'ai envie de citer où je ne suis pas sûr qu'Alex il soit là dans le tableau de l'effectif en septembre prochain lorsqu'on fera les 30 previews. Qu'en est-il de Chris Finch qui en ce moment soit se fait clasher par, j'ai bien aimé, Rudy Gobert publiquement parce qu'il y a des joueurs qui ont des traitements de faveur.
Alors moi j'aime bien et en même temps j'aime pas trop quand les joueurs font ce genre de truc publiquement.
J'aime pas non plus.
J'aime bien le message.
Et j'aime bien le message parce que Rudy il a dit un truc qui est très clair, mettez les sous-titres. Arrêter les traitements de faveur envers certaines stars qui ont envie de mettre 50 points mais défendent pas une pelle. Les mecs qui se font humilier en antenne nationale et face à des équipes qui sont censées tabasser, ça sert à rien de parler de vouloir gagner le titre si t'as déjà pas des bonnes habitudes de saison régulière. Et là-dessus, je respecte et adore le message de Rudy. Après, oui, ils pourraient faire ça différemment, mais à un moment où le message y passe pas parce que vu que les épaules, une fois qu'elles sont passées, c'est sur la tête de Rudy. Après, le mec, il se dit, oh, les mecs.
D'ailleurs, Finch, il s'est fait interviewer là-dessus en conférence de presse, il a pas du tout assumé. Hein.
Bah non,
pas du tout. J'aime pas du tout sa réponse.
Bah, de toute façon, Chris Finch.
Je focus.
Bah, Chris Finch, suivez mon regard. Hein. Là, je veux plus savoir. On t'a mis Ayodosunmu, là, à trade deadline. On t'a à ton 5, on a vidé.
Eh, Ayodosunmu, au passage, il arrive, on voit bien ce qu'il peut apporter aux Wolves.
Tout à fait.
C'est très clair. Hein.
Tout à fait. Mais donc, il y a beaucoup de pression sur ces Wolves. Il faut délivrer. T'es allé deux fois en finale de conférence. Comment ça se passe là, Chris Finch? Je suis désolé, c'est le mec qui a le plus de pression là-dessus. Jamal Mosley. On a parlé là tout l'été, on a dit, on a entendu des Paolo Banchero et compagnie nous dire que Orlando, il n'y avait pas de raison pour qu'il soit pas top 4 à l'Est. Breaking news, Orlando n'est pas top 4 à l'Est.
Et ça va être dur de l'être.
Et ça va être dur de monter.
Je dis pas que c'est pas possible, mais.
Non. Mais la dynamique avec Mosley en ce moment, c'est compliqué. C'est-à-dire que trouve-moi 10 jours consécutifs où le Magic impressionne. Je les ai toujours pas.
Ils ont que 4 matchs de retard sur les Cavs. Oui. C'est loin d'être fini mathématiquement, mais il va falloir un.
Comme je le disais, trouve-moi 10 jours consécutifs où le Magic est impressionnant. Non. Ça n'existe pas.
Non.
C'est aussi un problème avec le coaching staff et avec ses joueurs. Donc, Jamal Mosley, attention, le siège, il est bouillantissime. Chris Finch, il est bouillantissime. Il y a des gars aussi, je me demande s'ils sont dans quelques mois. On est sûr et certain que Steve Kerr, en septembre, il est encore coach des Warriors. Pas de par les résultats des Warriors, juste par la situation globale de Golden State. Ça fait des mois qu'on n'arrête pas de parler. Moi, j'en ai parlé avec des gens de la Dub Nation. Souci au dos, longue carrière. Comment ça va se passer?
Je sais pas. Je me suis demandé pour Jason Kidd aussi à un moment. J'ai l'impression qu'il a envie de coacher Cooper Flagg quand même, qu'il a envie d'être dans le projet de reconstruction.
Jason Kidd, très très bien. Moi, je pense que même s'il n'est pas en situation de compliquée, il va falloir aussi que Kenny Atkinson fasse bien avec les nouvelles recrues qu'il a. Parce que, attention, il y en a 2-3 qui ont commencé à dire ouais, c'est sympa, mais mec, pendant ce temps-là, Jean-Baptiste, il est premier de l'Est avec les Pistons. Hein. Donc, le game changer, on l'a eu en saison régulière l'année dernière, mais là, il faut que ça avance. Il y a 2-3 coachs comme ça. Je pense que Quinn Snyder, s'il est coach des Hawks l'année prochaine, c'est pas gagné du tout.
Je suis d'accord.
Est-ce que Doc Rivers est encore à la tête des Bucks ou à la tête d'un banc NBA dans quelques mois?
Je sais pas.
Par contre, je tiens à rassurer les fans des Grizzlies. Thomas Isalo,
ça bouge pas.
Voilà.
ça bouge pas. Donc en fait, mais pareil, tu vois, Tyronn Lue, on sait pas là, le mec qui vient de perdre Harden et Zubac, c'est quoi Tyronn Lue? On est sûr et certain que l'année prochaine, il continue le projet Clippers?
Sûr et certain, non, mais je crois pas qu'il soit très en danger, moi.
Pas en danger d'être renvoyé, mais peut-être que lui, il a pas envie,
oui, ok, peut-être.
Voilà, et d'autres. Donc attention, parce qu'il y a des coachs. En fait, ce que j'aimerais juste rappeler, c'est que l'année dernière, on s'est ramené en play-off, et on a fait, non, mais attends, ça arrive jamais en avril. Pardon?
Taylor Jenkins, bim, tu dégages.
Les Grizzlies, au revoir. Comment, les Nuggets.
McMalone, tu dégages.
On était sur les 10 premiers jours d'avril, et on a fait, attends, il y a 2 coachs qui viennent d'être virés à l'approche
des
playoffs.
Dans des équipes pas si dégueu.
Bah non, les Grizzlies, tout à fait, ils ont joué le premier tour des playoffs, et les Nuggets, c'était container.
Voilà, ouais.
Donc, les ordres sont un peu redéfinis, les coachs peuvent être virés un petit peu n'importe quand, et on a toujours des breaking news. Donc, généralement, c'est à partir du buzzer de la fin de saison régulière qu'on commence à avoir des renvois, parce qu'ils veulent faire ça un petit peu de manière proprette. Les règles sont plus les mêmes, donc je pense que c'est possible qu'il y ait un coach qui prenne la porte d'ici quelques jours, semaines.
Je suis d'accord, c'est possible.
Et
c'est
peut-être
même probable.
Pas qu'un. Ouais, voilà. À surveiller. Dernier point, mon cher Alex.
Ouais. À l'Est.
Oh,
à l'Est. Quelle sera l'équipe qui va nous faire un peu une Pacers 2025? Et pourquoi les Clippers? Les Sixers, pardon, excuse-moi.
Oula. Alors,
je me suis emballé.
Pourquoi les Sixers vont être les Pacers 2025?
Ils peuvent.
Ah.
Enfin, selon moi, ils ont le profil. Ce profil, je refais le profil. Le profil, c'est l'équipe, elle n'est pas mauvaise. Il se passe des trucs intéressants, mais honnêtement, est-ce qu'on les prend vraiment au sérieux là, en arrivant en play-off? Est-ce qu'on se dit, avant les play-offs 2025, bah oui, les Pacers, ils vont hyper bien jouer, Tyrese Haliburton va être hyper clutch, en plus ils vont avoir un alignement de planète qui va leur permettre d'aller en finale NBA? Non. Moi je pense que les Sixers ont un coup à jouer cette année, je suis déçu vraiment. C'est sincère de voir que bah du coup Paul George tape une suspension de ouf là pour la violation de la politique anti-drogue. Bon, voilà. Parce que je pense qu'il était une pièce importante de ce qui se passait chez les Sixers. Ce qui se passe chez les Sixers, c'est qu'il y a une nouvelle hiérarchie qui s'est mise en place. Le patron, c'est Tyrese Maxey. Le coaching de Nick Nurse peut avoir des côtés énervants parfois, mais a au moins le mérite, d'un point de vue tactique, de exploiter au max les qualités de pas mal de mecs importants. Donc celle de Maxi, évidemment. Embiid qui revient. Alors, il revient vraiment. Moi, j'admire là ce qu'il est en train de faire. Offensivement, ça reste Joel Embiid. il peut dribbler, il peut shooter, il a du toucher, il a un gros corps près du panier, il peut contribuer au rebond et tout. C'est vrai qu'en termes de déplacements, notamment latéraux ou de déplacements verticaux, c'est plus le Joël qu'on a connu quand même. Là, ça revient toujours pas vraiment. Ça, il est un peu mieux, mais ça reste quand même. Il bouge de moins en moins. Il bouge vraiment moins vite, mais il pèse. Il envoie de la stat, il est dangereux, il nous rappelle aussi qu'il est un excellent passeur depuis le poste de pivot, depuis soit le poste bas, soit le poste haut, là, au niveau de la ligne de lancer franc.
Il sent que c'est la bonne match-up.
Leur rookie, Vijay Ejkombe, joueur intéressant. Quentin Grimes, qui sort du banc, ça aussi c'est intéressant. Des Dominique Barlow, des Kelly Oubre et tout. Il y a un effectif aux Sixers autour d'un meneur dominant, un meneur vraiment dominant. Qui a de l'expérience, il y a pas mal de joueurs. Bon, il y a Vijay Ejkombe, c'est un rookie. Embiid a de l'expérience. Le coach Nick Nurse a de l'expérience. Tyrese Maxey a de l'expérience. Quentin Grimes a de l'expérience.
Ils ont encore Kelly Oubre dans l'effectif.
Oui, bon après, ils jouent. Voilà.
Oui, non, mais je veux dire, quitte à parler de
tout à fait.
Ils ont tout le monde.
Mais donc, ils ont ça, et ils sont dans le top 6 de l'Est. Ils sont en place. Après, ils ont le Magic un peu derrière eux. Est-ce qu'ils vont réussir à se maintenir dans le top 6 de l'Est et tout? Mais en tout cas, cette équipe-là, sur une série en 7, quand Embiid joue comme il joue là, ils sont relous et dangereux. Et ils peuvent battre sur pas mal de sujets. Pas mal d'angles qui font les séries. Ils peuvent s'adapter tactiquement. Ils ont des role-players qui connaissent très bien leur rôle. Ils ont un vrai sixième homme, un vrai patron, capacité à scorer. Donc en gros, en fonction du niveau d'intensité que Embiid pourra proposer,
oui.
Ouais, moi je pense que dans ces tests assez serrés où seuls les Pistons émargent au-dessus des autres,
oui.
Et on verra comment ils se comportent en play-off, mais je pense que dans ces tests-là, ouais, les Sixers peuvent créer de grosses surprises. Et ça va se jouer là, c'est pour ça que j'en parle maintenant, ouais. En partie, là, au mois de mars, est-ce qu'ils sont capables de se lancer, une belle dynamique, faire en sorte que tout le monde soit à 100%, patati patata. Je rappelle que Paul George, il est suspendu pour 25 matchs,
ouais.
Que donc, sur le papier, Sixers en play-off égale Sixers avec Paul George.
Oui. Ouais. Il faut qu'ils trouvent quelque chose dans lequel ils vont être élite aussi, parce que pour le moment, c'est globalement assez mid. Ils ont des séquences assez bonnes offensivement, ce qui fait que là, je vérifiais juste que depuis Noël, c'est la 8e meilleure attaque de NBA. Défensivement, c'est un peu plus compliqué. Ils sont descendus 18e. Mmh. Mais ils ont aussi des semaines dans lesquelles ils peuvent donner des flashs de top 5
ils
défense.
Ils ont un équilibre à trouver.
Ouais.
Mais ils ont beaucoup d'arguments qui font que s'ils trouvent cet équilibre, tout de suite, très chiant à jouer. Tout de suite.
Mais par rapport à la question initiale, ouais, qui est le Indiana un petit peu?
Moi, ça peut être les Sixers.
Ça peut être Philly, ouais.
Ils ont pas mal de points communs, finalement. Ça peut être qui sinon? Le Magic?
À l'Est, c'est compliqué.
Le Magic? Le Magic qui changerait de coach, là, et puis tout d'un coup, clac, ça défend dur.
Non, moi, je pense Boston, mais bon, après, Boston, c'est pas vraiment un Indiana de 2025.
Non, non, pas vraiment.
C'est ces équipes qui sont mid quand elles viennent de passage à Paris, Indiana dernière. Et la deuxième partie de saison est tellement folle offensivement et défensivement que tu dis « Oh là, j'ai pas envie de les affronter. » Et sur un bon alignement de toutes les planètes, tu te retrouves en finale NBA. J'en ai pas beaucoup. Philly est un bon client.
Moi, je vais surveiller très fort Philly. J'aime beaucoup ce qu'ils font cette année.
Cavs en finale NBA, c'est que celle-là, on l'a évoqué en septembre.
Ouais, quand même, on y croyait un peu plus. Ouais, on leur a mis beaucoup
c'est
de
win. C'est juste qu'ils ont fait comme ça.
En preview et tout. Voilà.
Très bien. Eh bien écoute, dernier point, évidemment que je vais surveiller de très très près sur cette fin de saison NBA, ce sont nos amis rookies français. Salut les gars, évidemment de Maxime Reynaud à Nolan Traoré en passant par Noah Penda, Noé Sengue s'il peut revenir, Johan Berringer, Maudi Awara, tous ces jeunes français qui sont en NBA. Attention, là en ce moment certains sont dans des équipes qui sont tellement nulles à chier qu'il y a des opportunités. Salut Maxime Reynaud, formidable avec les Kings, encore et encore titulaire.
Un énorme double-double
et vu la direction...
À la Sabonis.
Tout à fait, et vu la direction de nos amis les Kings sur les prochaines semaines...
Il va avoir du temps de jeu, Maxime.
Il va avoir du temps de jeu. Ouais. Vas-y, Max, montre-leur c'est qui, il y a quoi.
C'est clair.
On est à fond dans le wagon depuis le début, on lui fait la bise, évidemment. Ouais. Profite à fond de ça, parce qu'on ne sait pas à quoi vont ressembler les Kings ou s'ils seront encore à Sacramento dans quelques mois. Nolan Traoré.
Bien.
C'est
plaisir,
de
ça.
Persévérance, après être passé, notamment par la G-League, après avoir essayé de faire le roster de Jordi Fernandez, on vient de le mettre récemment. Titu avec Igor Demine qui nous fait.
Il l'a critiqué à un moment en conférence de presse, ouais. Tu te rappelles, au mois de janvier, et depuis.
Ah, ça...
J'aime bien le caractère, bien Nolan, ça
c'est
fait plaisir
testé.
Ça.
Tout à fait. Et donc Nolan a envoyé aussi quelques belles perfs, ça marche bien avec Igor Demine. Moi je vous conseille, si vous êtes un petit peu bobo de la NBA, de regarder les Nets en ce moment.
Parce que c'est très geek. Hein.
Parce que c'est très geek, mais c'est prometteur. Igor Demine, on n'en parle pas beaucoup dans les rookies cette saison.
Joueur.
et il fait une super saison rookie tout en montée. Le shoot à 3 points est très très bon, là en train de trouver
il
son rythme.
Il est en train de justifier le pick 8.
Tout à fait.
C'est déjà pas mal.
Bien sûr. Et Nolan Traoré, vas-y mon gars, montre que tu fais partie d'eux. On vient de libérer Cam Thomas, il y a des opportunités à prendre. Montre que tu es un des sneaky bonnes acquisitions de ces Nets-là. Donc, moi, ça fait quelques matins là que, à la toute fin des nuits, quand j'ai regardé les matchs, je me dis, attends, je vais juste vérifier là, c'était quoi le temps de jeu, les responsabilités de Max Reno et Nolan Traoré ? Deux très bons. Modiawara, pardon.
Super.
Modiawara chez les Knicks, quoi, ça y est, il fait partie du top 8 de la rotation des Knicks,
il
là
est dans la rotation.
Genre, il a fait, oui, merci Gershon, tu connais Chicago, mais moi, je vais plutôt prendre des minutes là.
Il est dans la rotation.
Il est dans la vraie rotation, Modiawara. Ça, incroyable.
En même temps, il fait le taf, hein.
Tout à fait. Vu que Chris Finch ne sera plus coach des Wolves dans quelques mois, est-ce qu'il y aura Jorène Béringer avec davantage d'opportunités ? À voir. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il a un potentiel de fou. On a parlé
un
à la deadline.
Un peu plus compliqué. Le potentiel a l'air fou.
Tout à fait. Mais, comme on a parlé à la deadline, les Bulls souhaitaient récupérer Jorène Béringer contre Adosumnu et Minnesota a dit non, ce qui est un gros gage de confiance de la franchise envers Béringer. Noah Penda, on a vu des choses formidables avec le Magic. Hâte de voir sur la fin de saison, là, s'il y a des choses. Je touche du bois pour Noah Essengue, évidemment, parce que malheureusement, là, entre les blessures et ce qui s'est passé en
compliqué.
En ligue, enfin voilà, c'est pas une saison rookie à la hauteur de ce qu'on aurait aimé voir, mais il y a des choses. Et donc, moi, j'avoue que je prends un malin plaisir à regarder ces Français, certains qui sont dans une équipe absolument atroce, mais saisissent leur opportunité. Et ça, c'est super. Donc, évidemment, les vétérans français, on les connaît. Moi, je t'ai dit, les playoffs de Wemby, j'ai envie de voir ça comme un des trucs les plus fous de ces dernières années. J'ai hâte de voir, évidemment, Rudy aussi en pilier d'une équipe de Minnesota qui veut jouer les troubles faits aussi à l'Ouest. C'est peut-être eux, hein, les puissances de l'Est, mais de l'autre côté, hein, s'ils trouvent leur rythme. Plein de Français à suivre. On n'en a jamais eu autant en NBA. Et il y en a qui ont des vrais rôles. Et les plus jeunes, on les dents longues. Donc, on y va, les gars. Peut-être que pour Max Reno et Nolan Traoré, les opportunités ne seront pas les mêmes dans un ou deux ans que là, dans les six prochaines semaines. Cocorico,
c'est cool.
Nos amis les Français,
c'est cool.
Dites-nous quelles sont les choses à observer pour vous sur cette fin de saison NBA. La suite, c'est très simple. On va se retrouver évidemment sur la chaîne YouTube avec d'autres petites actualités. Et puis, bah, on vous souhaite un bon All-Star Break. Toute l'actu est sur les réseaux sociaux de Trash Talk, évidemment.
Bien sûr.
Et puis, bah, Léon, c'est Alex et Bibi et notre ami La Plante. On vous fait des gros bisous et on se retrouve très vite sur votre chaîne YouTube préférée. Des bisous, à la prochaine.
Ciao tout le monde.
Ciao.
Ciao.